Philippe Sellers, donc vous êtes avec nous pour votre roman Les Folies Françaises et pour vous interroger, eh bien Nadine Vasseur, Josiane Rosine, Marianne Guyenne et Madeleine Mukamamano, rien que des femmes, c'était évidemment nécessaire, indispensable avec ce roman dont on peut dire qu'il est un roman sur ou à propos de l'inceste. Enfin, c'est l'histoire quand même au départ d'un homme qui a 43 ans, qui retrouve sa fille qui a 18 ans, donc une fille qu'il a eue quand il avait 25 ans et qu'il n'a jamais vue depuis sa naissance. C'est sa femme, qu'il appelle Madame d'ailleurs, qui est une Américaine, qu'il revoit après 18 ans de séparation et qui lui confie cette fille qui s'appelle France, non symbolique quand même. Il y a beaucoup de symboles dans ce roman qui est court, 126 pages, il y a énormément de choses. On a le sentiment que c'est un peu le condensé d'un très gros roman de 500 pages que vous auriez écrit par ailleurs. C'est vrai, il y a un manuscrit de 500 pages au départ.
Je pense qu'il y a beaucoup de passages qui pourraient être développés, mais que c'est préférable, lorsqu'on peut le faire, de parler de façon elliptique. Oui. Donc c'est une série d'ellipses, et sur chaque passage, pas tous les passages, mais il y aurait de longs développements à faire chaque fois. Mais ce qui m'a plu, c'est de faire quelque chose d'assez ramassé, d'assez rapide, diagonal, et en donnant l'impression qu'il y avait derrière beaucoup d'autres choses. C'est un petit roman qui peut se déployer, j'espère.
Connaissez le mot de Paul-Louis Courier qui avait écrit à la femme de sa vie une lettre de 2 pages et en post-scriptum il a ajouté « Excusez-moi madame, je n'ai pas pris le temps de faire court ».
Oui, c'est ça. Et ben en effet, il faut prendre le temps de faire court. C'était beaucoup plus compliqué en un sens que de faire long.
Alors, on trouve Villon, on trouve Don Juan, on trouve Molière et la notion de spectacle. On trouve beaucoup de choses dans son roman qui est donc une intrigue. Il y a une intrigue romanesque entre eux.
C'est une sorte de leçon particulière qu'un père donne à sa fille. Oui. C'est une leçon sur la vie, sur le pays qu'elle ne connaît pas. Hein. Elle s'appelle France, mais elle ne connaît pas son pays. Ce qui est, je crois, la situation de presque tous les Français.
Alors, l'inceste ou pas inceste
Alors, le mot est très gros, n'est-ce pas, comme vous allez sans doute le dire, inceste pas trop, disait que non, n'est-ce pas?
Voilà. Exactement, oui, c'est une illustration.
Le mot est très gros, et donc, dès qu'on dit ce mot, les fantasmes qui apparaissent sont trop pesants. Ouais. Or, là, c'est un livre qui doit être léger, un peu comme une plume, et ne pas trop s'avancer dans le projecteur des gros mots. Et puis en plus, inceste, ça évoque immédiatement la tragédie. Ça évoque une situation de violence faite à quelqu'un, de viol pratiquement, ou alors qui va déboucher vers du sang, du meurtre, etc. Des incestes, vous savez, il y en a de... Et d'abord, il faudrait distinguer l'inceste que nous connaissons par la tragédie. Hein, Oedipe, Sophocle, Freud et compagnie, ou alors Phèdre, c'est finalement l'inceste à la française vu par Racine, c'est interdit, donc c'est le crime suprême, donc c'est la tragédie. Or ici, c'est une apologie constante de la comédie légère. Oui. Donc s'il y a un inceste, alors ce serait le contraire de ce qu'on imagine d'habitude par là, c'est-à-dire que ça ne déboucherait pas sur la violence, la tragédie, la mort, le côté sombre.
Ça débouche sur la complicité.
Oui. Alors ça, je pense que, justement, du côté de père et fille, c'est pas la même chose qu'un fils par rapport à sa mère, qui tue son père, qui épouse sa mère. Là, il y a quelque chose qui relève de la comédie. Et alors, l'emblème fondamental de ça, c'est précisément Molière, parce que ce qu'on devrait savoir davantage, c'est que Molière a épousé bel et bien sa propre fille, la fille qu'il a eue avec Madeleine Béjart, Armande Béjart, qu'il a épousée 20 ans après, et ça m'a toujours paru extraordinaire que ça soit lui, Molière, qui ait inventé à ce point la comédie qui dure, parce que Molière est vraiment celui qui a écrit Don Juan, mais aussi Les Femmes Savantes, la critique de l'École des Femmes, les Précieuses Ridicules, etc. C'est-à-dire tout un programme, au fond, théâtral, enjoué d'éducation des filles et des femmes.
Oui, alors donc, sur ces rapports entre le père et et sa fille, vous êtes très discret. Il y a quand même certaines phrases, comme, je ne sais pas, page 124, « On rentre tard pour dîner, on se couche, ce « on » impersonnel ». Eh bien, ressemble bien à un paravent, un pudique paravent, ou encore, page 98, elle ne reste jamais nue devant moi. Alors, reste, ça peut vouloir dire aussi qu'il lui arrive d'être nue, mais elle ne reste jamais nue, enfin. Ou alors, par exemple, page 75, ils se battent au lit et, dites-vous, la caméra va se perdre dans le parc des marronniers où les oiseaux crient. Alors là, l'image est quand même bon. Alors, vous suggérez beaucoup de choses et voilà, vous n'en dites jamais plus. Hein.
Mais je crois que plus, ça serait lourd. En effet, tout s'effondrerait, c'est un exercice de corde raide. Hein. Il faut rester toujours dans l'ambiguïté et suggérer plutôt que dire. C'est un livre qui n'aurait pas supporté la moindre pornographie ou la moindre obscénité.
Et ça ni pornographie, ni rien du tout de particulièrement sexuel.
L'émotion,
L'émotion, vous pensez que ça manque d'émotion?
Oui, enfin, moi j'ai trouvé que ça manquait d'émotion et je me suis posé la question si le fait de dédramatiser l'inceste, comme vous le faites, ne rend pas impossible la description de l'inceste. Puisqu'on en sait plus sur Molière, sur Don Juan et toute la galerie de la peinture française, de la musique française et de la littérature qui passe beaucoup plus que sur les rapports entre le père et le fils.
C'est un inceste à la française, justement. Le livre est fait pour ça. Mais par exemple, ça m'étonne parce que les critiques se disent, est-ce que cet inceste est consommé ou n'est pas consommé? Mais regardez ce dialogue. Si. C'est le père qui parle, alors il y a elle qui répond. Tu es bien? Oui. Et toi? Très bien. Ça te fait drôle? Pas du tout. Et toi? Non, j'avais envie, j'ai envie. En tout cas, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Pas encore, jamais, non, jamais. Bon. Donc ils ont fait quelque chose qui aurait impliqué que le ciel leur tomba sur la tête. Autrement dit, quoi? Ben devinez, voilà. Et donc c'est une série d'allusions, en effet. L'émotion doit être contrôlée et le message doit être toujours indirect. Enfin, très, très, très clair, quand même.
Vous dites aussi un certain moment qu'il faut faire comme si on n'avait jamais rien fait.
Ah, voilà, ça c'est très important, oui. Ça, je crois que c'est ça va dans le sens des femmes, ça, de ne pas leur asséner la vie sexuelle et de se comporter avec elles comme si ça s'était passé, mais que rien ne s'était passé. Ça va dans leur sens, je crois. Au fond, c'est ce qu'elles pensent.
Vous ne faites pas la même chose avec le biographe. Ou là, le biographe, pour le biographe, vous faites.
C'est ça, il y a un autre personnage qui est là pour faire la biographie de l'écrivain qui est en situation et qui ne se rend pas compte qu'il a sous les yeux une situation extraordinaire. Donc il fouille dans les papiers, l'autre les gare exprès, et il ne se rend pas compte, comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, si vous voulez, qu'il a sous les yeux une situation tout à fait scandaleuse. Mais il ne s'en rend pas compte. Alors c'est ça qui est drôle.
C'est vrai que les critiques ont été sur la consommation.
Mais les critiques sont comme le biographe.
Moi, je n'ai vu effectivement aucun doute. L'inceste est consommé. Mais le doute se porte sur autre chose. Sur la fille elle-même. Je ne la vois pas. Elle-même demande à un moment donné de pousser un peu le rôle de la fille. Alors si l'inceste n'a pas existé, c'est parce que cette fille n'existe pas. Elle est tout de même, elle est un miroir fantastique pour son père, qui trouve l'occasion de récapituler un petit peu sa vie, de se donner une leçon de philosophie. Vous avez beaucoup parlé de Molière, la comédie est française, le goût est français, mais en fait, un français très matiné d'allemand, parce que Don Juan ici est un Don Juan nietzschéen. C'est plus Zarathoustra que Don Juan, non?
Alors pour compléter ce que dit Josiane à propos de miroir, je crois que le miroir est surtout, c'est surtout la voix qui joue un rôle important, puisqu'il vous dit « sa voix et ma voix changées ». Ou encore « comme si j'entendais, c'était comme si j'entendais une modification de ma voix passant par ta gorge ». Oui, il y a un phénomène de narcissisme quand même au niveau de la voix.
Oui, mais voyez, Narcisse, c'est toujours le miroir. Hein.
Oui.
Narcisse se regarde, se trouve beau et tombe dans l'eau, hein, c'est ça. Tandis que là, c'est pas la vue, c'est pas le fait qu'on se voit, c'est pas le fait qu'on se ressemble optiquement, encore que ce soit le cas, puisqu'il dit aussi qu'elle lui ressemble. Donc je veux bien être d'accord avec vous, puisque
c'est un dialogue. Elle est en plus sans voix, cette pauvre fille.
Non, elle parle.
Il y a quelques onomatopées.
Non, mais c'est pas elle qui écrit le livre. C'est pas elle qui écrit le livre, hein, c'est de l'autre.
Ah ben elle vous aide, elle est là pour vous aider.
Voilà. Alors on peut aussi bien dire que.
Mais c'est le père qui est le maître.
Oui, mais Madame Bovary, c'est moi, ma fille, c'est moi, si vous voulez.
Alors venons-en à un autre aspect de votre question.
Votre fille, c'est vous. C'est pour ça qu'elle n'est pas une femme. Vous dites, elle est comme moi, directe, réservée, son plaisir, etc. Et dans cette mesure, parce qu'elle vous ressemble, elle n'est pas une femme, votre fille.
Elle est en train de le devenir, oui. C'est ça.
Non, et si d'ailleurs...
Juste avant qu'elle le devienne.
Si vous l'appréciez, c'est parce qu'elle n'est pas une femme.
Elle va le devenir, elle le quitte lorsqu'elle va devenir une femme. D'ailleurs, le mari est choisi, elle va vivre très tranquillement avec lui, elle aura des enfants, rassurez-vous.
Pourtant, elle a 18 ans, elle est une femme.
Et elle sera une femme.
Nadine.
Oui, peut-être qu'elle reviendra.
Oui, enfin, c'est dit, non, dans 3-4 ans, il y aura un deuxième épisode avec le père, semble-t-il. Enfin, c'est plus ou moins...
À un moment donné, il envisage qu'il faut qu'elle se marie, que c'est bien pour une femme de se marier, d'avoir un mari convenable, qui va être chirurgien, je sais pas, dans un hôpital en Australie, et qu'elle aura deux ou trois enfants, et puis que peut-être ils se reverront. Et à un autre moment, le roman se finit là-dessus, ils savent qu'ils ne se reverront pas, justement. Parce que ce qui s'est passé implique un non-retour. Donc, ils sont séparés à jamais.
Moi, la question que je voulais poser, vous avez parlé tout à l'heure d'inceste à la française, et c'est vrai qu'avec les allusions à la littérature, à l'art français, puis le prénom France, bien sûr, donc c'est la France, une France que vous avez choisi de faire juive tout de même à la fin.
Tout à fait, oui.
Cette fille se révèle être juive.
Tout à fait. C'est-à-dire, elle ne se révèle pas.
Le narrateur, vous nous apprenez
que le narrateur est bizarre, parce que tout à coup, à la, je crois que ça tient en une page à la fin du livre, il dit, est-ce que j'ai pensé à dire qu'elle était juive? J'ai peut-être oublié de le dire. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, un autre narrateur ou un autre écrivain, on aurait fait le sujet principal du roman. Or là, c'est dit comme si ça allait de soi, ce qui est une indication, à mon avis, à la fois très, bon, très politique et aussi assez métaphysique, parce que tout le passage de la fin est rédigé dans le style de, un peu masqué du Cantique des Cantiques. Oui. Donc voilà, il se trouve qu'elle est juive. Mais pourquoi ça m'intéresse qu'elle soit juive, c'est que, de même, donc sa mère l'était. Madame était juive.
Oui.
Elle est juive, et alors si elle a une fille, comme il l'imagine, elle sera juive aussi.
Il était important, je crois.
Donc c'est le mariage de la France et de la judaïté. Et vous savez que le livre le plus antisémite qui a été écrit, un des plus antisémites, ça a été La France juive de Drummond. Donc je retourne la situation. Que France soit juive, c'est tout à fait naturel.
Je crois qu'il était important, effectivement, à la fin du livre, de donner ce détail. Elle est juive.
Ah, détail, attention, vous parlez comme
Le
Pen.
Attendez, je dis un détail parce qu'il n'y a pas d'antinomie à être français, être juif. Donc c'est un détail.
Il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé, et énormément de gens qui le pensent encore, qu'il y a antinomie complète.
Oui, mais moi je ne le pense pas.
Donc c'est une goutte, c'est une goutte de scandale supplémentaire dans le livre et dans le sujet, c'est vrai.
Bon, oui, je dis que c'était indispensable parce que j'ai lu dans votre livre que les Français sont dans la comédie, les autres sont dans le ridicule. Croyez que...
Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que les autres étaient dans le ridicule. Non.
Ah si, il faudrait que je retrouve le passage.
J'ai dit que la spécificité française, c'est probablement la comédie française, voilà. Et que, non, il dit ça simplement parce que, encore une fois, c'est un parti pris contre la tragédie, contre le fait de prendre tout ça au tragique. L'amour, la cesse, les sentiments, etc. Je crois qu'alors, s'il y a une spécificité française, sans insister sur la différence, tous les peuples ont des spécificités, il est certain que la comédie n'est pas allemande, par exemple, il me semble.
Oui, alors l'Allemagne, justement, je voudrais qu'on revienne à votre question tout à l'heure, Josiane Rosine, à Don Juan plutôt allemand.
Mais oui, mais vous avez dit Nietzsche. Hein.
Oui,
Nietzsche. Et alors vous me surprenez un petit peu parce que Nietzsche voulait être tout ce qu'on voulait, polonais même à la rigueur, mais surtout pas allemand. La diatribe la plus violente qui est contre l'allemand, l'esprit allemand, la littérature allemande, c'est Nietzsche, justement. Vous prenez Nietzsche au mot de Nietzsche, et vous avez les... Enfin, c'est vrai, c'est même endiablé, c'est la fureur, c'est de la fureur. Lui, il n'aime que les Français en littérature, c'est l'apologie de Voltaire. Après, à part Voltaire et moi, dit-il, avec la modestie mégalomaniaque qui le caractérise, il n'y a rien. Et l'esprit allemand, il le rejette complètement, avec une grande fureur, Wagner et tout ça.
Oui,
donc le nietzschéisme n'est pas allemand non plus, voyez.
Alors oui, c'est plutôt Zarathoustra que j'ai vu dans votre donjon, ce danseur, ce funambule sur une corde, cette affirmation de la vie, cette philosophie du don. Et je crois que finalement, votre roman... c'est quand même une tentation philosophique, très marquée.
Oui, c'est aussi un roman philosophique, oui. De philosophie positive.
Ah, tout à fait, l'affirmation de la vie, Dionysos, oui.
Nadine. Vous avez dit, il n'y a pas longtemps, que le fait qu'elle soit juive était un scandale supplémentaire. Alors, il y a aussi dans ce livre là, un projet de réécriture de Don Juan. Don Juan qui se terminerait sur une liaison entre Don Juan et sa fille qui se mettrait donc du côté de son père, laquelle liaison serait approuvée par Elvire, et on enverrait promener le commandeur, et ça se termine par formidable scandale inouï. On retrouve ce terme de scandale, qui revient, et puis le fait d'avoir écrit un roman sur l'inceste, et justement vous pensiez bien que tout le monde allait se demander inceste ou pas, bon, ce qui est évidemment une volonté de scandale. Il y a un moment, un jeu de réplique entre le père et la fille, la fille lui disant « Mais fais attention, tu vas te faire interdire », et le père qui répond « Mais c'est déjà fait ». Enfin bon, on a l'impression que vous jouez quand même un petit peu à vous faire peur, là, non? Parce que...
Non, c'est dans le dialogue,
c'est, ça. Enfin, le scandale est finalement très...
Non, je crois qu'il y a...
Il fait partie du jeu.
le don Juan, vous voyez, en principe, il est puni. Il faut qu'il le soit. Il faut absolument qu'il le soit. Aussi bien dans la pièce de Molière que dans l'opéra de Mozart, que dans toutes les représentations fantasmatiques qu'on s'en fait, c'est quelqu'un qui transgresse les règles établies et qui est puni. Il va en enfer. Là, le scandale, c'est précisément qu'il n'y ait pas de scandale à la limite. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Ça ne va pas provoquer des levées de boucliers. Mmh. Ce livre paraît très tranquillement. On en parle. Voyez,
non, il n'est pas méchant, votre livre. Non, il n'est pas méchant, mais dans le bon
c'est
sens.
C'est-à-dire qu'il n'est pas tragique. Mais c'est peut-être ça, le scandale. Le scandale, c'est peut-être que ça a l'air de passer comme ça, sans avoir l'air de rien.
Oui, mais Madeleine, justement, est-ce que vous ne regrettez pas ce manque de scandale, vous, justement, qui essayez de dédramatiser l'inceste, tout d'un coup, on sent qu'il y a un regret que ce sujet ne provoque même pas de scandale. Parce que non seulement vous le dites, quand il vous dit que vous allez être interdit, vous dites que c'est déjà fait, et vous allez même jusqu'à un moment donné à prêter votre nom au personnage, au père.
Mm-hmm. Je crois que c'est un livre qui est secret. Il y a une atmosphère de secret et qui va comme ça continuer. C'est le narrateur est très conscient qu'il est avec sa fille dans une sorte de secret qui ne sera atteint par personne. Et je crois que c'est ça le thème fondamental. Mais il n'y a aucune nostalgie. C'est un secret inaccessible.
Mais quand vous parlez de votre propre relation, la relation du narrateur à sa mère, vous en dites j'en ai hérité de l'hystérie, juste ce qu'il faut, pas trop. Comme ma fille d'ailleurs, elle est. Et on sent tout de même un petit peu tout au fil du lit, ne serait-ce que par cette histoire, par ça, justement son refus du tragique, en même temps un refus de tout l'appareil psychanalytique en fait, qui a été greffé autour des relations, enfin la psychanalyse, enfin peut-être que la littérature est moins investie de l'inceste père-fille, mais la psychanalyse en est pleine.
La mère est très présente dans la vie des écrivains et dans la littérature, on pourrait en remplir des pages et des pages, comme si finalement c'était le personnage principal à qui on offrait sa vie, son œuvre, etc. Même Proust, finalement c'est ça, c'est la grand-mère, mais c'est la mère quand même. Donc je crois que c'est un personnage extrêmement puissant, la mère. Ce livre est fait pour dire qu'il y a un autre chemin de traverse, très, très discret, où si on enlève une fille à sa mère, question considérable, comment enlever une fille à sa mère? C'est le sujet de La Flûte Enchantée, vous savez, un opéra très, très, très sérieux et très drôle. Et c'est aussi, c'est pour ça que vous parlez du Cantique des Cantiques, c'est aussi ça dans la Bible, c'est-à-dire comment enlever une fille à sa mère? Il semblerait que la mère et la fille soient collées l'une à l'autre. Quand vous interrogez les femmes, vous voyez très bien que ça tourne autour de leur mère et que les hommes, souvent, ne sont que des alibis.
Elles n'y arrivent pas
tellement à leur père. Elles en sont empêchées par leur mère. Elles ont leur mère sur le dos, si j'ose dire.
Enfin, le refus,
et ça les déprime beaucoup.
Le refus du tragique, quand même, un certain nombre de tragiques qui est lié avec
certaines
connaissances.
Le tragique
est
maternel. Le tragique est maternel.
Alors, le thème de la séduction, puisque vous écrivez, je voudrais savoir, dit le narrateur, si la règle des règles, ce n'est pas de plaire.
Ah oui, c'est La Fontaine, ça.
Oui,
mais ça, c'est.
Et je me souviens de ce que vous aviez dit à cette émission même, Mauriac, vous disant il y a 30 ans, au moment d'une curieuse solitude, tu sais, petit, je ne prendrai
non,
pas
l'accent. Non, c'est Aragon, ça.
C'est Aragon.
Tu sais, petit, finalement, le seul problème, c'est de savoir si on plaît aux femmes.
Voilà. Il
m'a dit ça, j'ai trouvé ça extrêmement simplifiant, mais enfin, oui. Comme c'était un homme d'expérience, et en plus que c'était pas vraiment ça son objet, comme on sait, la formule était drôle. Plaire, non, mais ça, c'est La Fontaine qui dit ça, que finalement, toutes les règles, et Molière aussi, toutes les règles, toutes les théories littéraires, c'est pas du tout important. La seule question à se poser, c'est de savoir si ça plaît. Ou autrement dit, si ça vous plaît d'abord à vous de l'écrire. Moi, ça m'a plu d'écrire ça. Alors, je pense que comme ça m'a plu, ça va plaire à d'autres.
Et est-ce que ça
va être
plaît
que ça va être une contamination.
Est-ce que vous appréciez que je vous dise votre livre me plaît sans explication? Parce qu'il n'y a pas d'explication dans votre livre.
Non, mais il n'y a pas de meilleure éloge. Merci beaucoup.
Non, pas de réponse.
Si ça vous plaît sans explication, c'est ce qu'il y a de mieux.
Non.
Marie ou Madeleine Camabana.
Le livre plaît, mais ce qui est étonnant aussi, c'est que le personnage du père n'essaie pas de séduire, en fait. C'est comme s'il y avait une sorte de facilité, cette fille qui est son double, c'est acquis d'avance.
C'est le séducteur séduit. Hein, c'est lui qui est séduit. Et il explique pourquoi, et même il a des moments de peur. ça lui fait un peu peur.
Oui, alors dans cette peur aussi, peut-être que je me suis trompée, j'ai vu une sorte de peur de la vieillesse quelque part. La vieillesse qui est présente d'abord par le personnage de Saul, le biographe, parce que je suppose qu'un écrivain ne commence pas sa biographie quand il est au début de sa carrière. Et aussi, à un moment donné, il parle des difficultés physiques à suivre le rythme.
Ça, c'est la conjuration de la vieillesse et de la mort. En réalité, c'est aussi un livre sur la mort, c'est une sorte de testament. C'est pour ça qu'il y a Villon qui arrive. Qui est là pour plusieurs raisons, mais enfin surtout aussi pour celle-là, pour ce thème de, finalement, oui, on va mourir. Alors, c'est bien, c'est comme si il pouvait mourir avec sa fille. Enfin, ça, c'est assez freudien. Vous savez, Freud disait, pour un homme, il y a trois femmes essentielles dans sa vie. C'est sa mère d'abord, ensuite son épouse qui ressemble souvent à sa mère ou à une de ses sœurs, et puis il y a sa fille. Alors, il va de sa mère à sa fille. Ou alors, il n'arrive pas jusqu'à sa fille. Mais finalement, c'est sa fille qui est censée recueillir le mort qu'il est. Donc, c'est l'expérience de la mort.
C'est une conjuration ou c'est l'achèvement?
Non, je pense que c'est une façon de conjurer, presque comme un sort qu'on jette pour le faire tourner à la comédie, à la légèreté.
Oui,
pas grave de mourir, c'est pas grave de vivre.
Oui, c'est vrai que c'est un exercice. On apprend à mourir, vous apprenez à mourir.
Que philosopher, c'est apprendre à mourir.
Non, mais vous
écrivez, philosophe
il n'y a
Montaigne.
De bon père que mort.
Ah, oui.
Et vous dormez d'ailleurs beaucoup dans ce livre, tous les deux.
Le sommeil est important dans l'amour.
Marie Nguyen.
Vous dites d'ailleurs qu'à un certain moment qu'un bon père est un père mort.
Je ne dis pas ça, je dis qu'il y a de bons pères que morts, et là je pense que le père dans la société, enfin ça aussi c'est assez freudien, le père, on le veut toujours mort. Le fils le veut mort pour prendre sa place, c'est paradoxal la figure du père, c'est pour ça que c'est très difficile à traiter, c'est quelqu'un qui est censé tout savoir, tenir le coup, alors qu'aucun homme ne... a envie de tenir le coup à ce moment-là. Et donc il est censé tout savoir, tenir le coup, être maître de lui comme de l'univers, ne pas se plaindre. Et alors c'est pour ça qu'il incarne petit à petit la figure du mort, comme on dit au bridge.
Mais vous n'avez pas écrit ce livre aussi un petit peu pour brouiller les pistes? Parce que autant les trois derniers romans, je pense qu'on viendrait tout à fait à votre biographe, comme l'homme public, l'homme des médias, l'homme des télévisions, l'homme des préfaces, l'homme des conférences, je crois, un certain nombre une phrase comme ça. Autant là, il y a... vers la littérature, donc je suppose peut-être que votre prochain roman, il y aura beaucoup plus de citations de Bossuet, par exemple.
Non, ça
sent
tout à fait autre
chose. Par exemple, le choix de l'Australie pour la fille, l'Australie c'est un pays neuf, il n'y a aucune culture, enfin ou une culture très...
Ça, c'est la fin du livre, elle part d'Australie.
C'est pas aussi un petit peu pour brouiller les pistes?
Parce qu'en fait,
quand on lit cet ouvrage, c'est vrai qu'on a un plaisir à le lire. On sent d'ailleurs que vous l'avez écrit avec beaucoup de plaisir. Et personnellement, je n'ai pas du tout ressenti la même chose avec les trois autres romans. J'ai l'impression que c'était plus de la facilité. Oui. Alors que ce roman-là n'est pas...
Avec le temps,
pas du tout la facilité.
Avec le temps, vous verrez que tout ça est assez cohérent. À la fin, si elle part en Australie, ça veut dire aussi que le livre va revenir dans longtemps. C'est le calcul sur le fait que ce livre qui est là maintenant, dont nous parlons, se déploiera petit à petit et va revenir plus tard.
Vous brouillez les pistes, peut-être pas, mais il y a toujours, sur toute chose, sur tout sujet chez vous, deux poids, deux mesures. Mais ce qui est très sympathique, c'est que vous êtes resté le petit garçon qui a toujours cru qu'un kilo de plume n'est pas égal à un kilo de plomb.
Ah oui, ça j'y tiens beaucoup, oui. Mais vous croyez-vous qu'un kilo de plume est égal à un kilo de plomb?
Non,
au fond,
c'est du mal.
Vous avez évoqué Villon tout à l'heure. Alors Villon, à cause du rythme, bien sûr, le thème de la mort, les octosyllabes. L'octosyllabe, c'est le 8. Le 8, c'est quand même l'image de l'infini, bien sûr. Oui, c'est ça.
Absolument, c'est ça.
C'est un livre dans lequel, en fin de compte, il y a des quantités de choses comme ça, et c'est au galop, au triple galop.
On pourrait en prendre une pincée, encore une fois, la mettre dans l'eau, on verrait que ça fait quelque chose comme une fleur qui peut grandir.
Oui.
Donc tout ça demande beaucoup de petits travaux dans les interstices, comme ça. C'est très plaisant à faire.
Oui, on a parlé de Villon, on a parlé de Molière, on a parlé de Don Juan, on n'a pas parlé de Manet.
Voilà,
c'est
une leçon, en somme, c'est une leçon de sentimentale, c'est une leçon physique suggérée, et en réalité, pour montrer ce qui se passe dans cette leçon, ce qu'apprend l'autre, qui existe bel et bien, donc il y a la littérature, on a dit Villon, Manet, il y a la musique... la musique française, c'est-à-dire Marin Marais et Rameau, beaucoup, les opéras de Rameau, parce que les Français connaissent très mal et qui commencent à apprécier, qu'est-ce que c'est que de chanter en français. Et puis il y a la peinture, et le peintre, le héros, là, c'est Manet.
Oui, mais avec, Manet, avec pas ce... tellement comme peintre, plutôt comme dandy et comme homme qui sait parler aux femmes.
Mais tout se tient, c'est ça qui est merveilleux chez Manet, dans ce tableau merveilleux qui s'appelle Un bar aux folies bergères. Donc les folies françaises, c'est à la fois un morceau de musique de Couperin, et le grand tableau de ce livre, c'est Un bar aux folies bergères, que je vous conseille de regarder attentivement, comme j'essaye de le faire regarder à la fille du roman, et qui est un tableau fabuleux, un des derniers que Manet ait peint, avec tout en miroir. Voilà, il y a la clé du livre dans ce tableau.
Madeleine.
Oui, à un moment donné, on a l'impression qu'en lisant ce roman au deuxième degré, c'est pas l'inceste avec la fille, mais plutôt l'inceste avec la France. Parce qu'on a l'impression que la France est déflorée petit à petit, sa musique, sa littérature, sa peinture.
Bien sûr. D'ailleurs, à un moment donné, je crois que le père dit Tu es ma fille et tu es ma langue. Là aussi, vous voyez, on parle toujours de langue maternelle, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas. Un écrivain qui arriverait à ce que sa propre langue soit sa fille serait dans une position très joyeuse, je crois.
Mais alors, personnellement, c'est
et la France déflorée, ça me plaît bien aussi, parce que l'un des symboles qui me révulse beaucoup, je ne sais pas si c'est mon éducation à Bordeaux avec les Anglais, c'est par exemple Jeanne d'Arc. Je trouve que cette pucelle en armure nous barre l'horizon.
Oui, enfin, votre fille vous appelle quand même Pape, qui est une imitation du daddy anglais.
Oui, mais elle vient
c'est un anglicisme.
Oui, mais elle vient du continent anglo-saxon, elle repart en Australie, elle passe par la France. Mais la France, Jeanne d'Arc, on n'en est toujours pas débarrassé. Hein.
Oui, mais qu'est-ce que ça signifie chez vous, ce désir de déflorer la France?
Je trouve que c'est un livre, si j'ose dire, qui tombe à pic. Qui tombe à pic, je ne vais pas en faire une version politique, mais elle est pourtant très très claire, à mon avis, de façon sous-jacente. Ça veut dire que les métissages et l'ouverture vers la France, non pas l'identité nationale fermée et amnésique, mais au contraire vers la France libre, libre dans tous ses coefficients de liberté, a été curieusement oublié. Aujourd'hui, il y a un grand débat. Finalement, le grand débat, c'est ça en France, en politique. Hein, c'est savoir qui est français, qui ne l'est pas, et qui se sent l'être, et pourquoi, pour quelle raison. Qu'est-ce que c'est que d'être français? Moi, je réponds dans ce livre.